Ça revient vers Gallagher. S'installe maintenant avec Dano. Dano tente la passe. Et voilà Shea Weber qui saute sur la glace. C'est la raison pour laquelle vous entendez les amateurs manifester.
Le retour de Weber, Bruno Gervais, du réseau des sports. Lui, Bruno, analyste au match du Rocket. On va en parler tantôt. À l'antichambre, au 5 à 7, hockey 360 avec grand plaisir. Notre expert, leur expert, un expert, Bruno Gervais, salut.
Bonsoir, Ron.
Ça va bien?
Très bien, toi?
Très, très bien. Hey, en passant, je veux que tu parles de Weber. Mais moi, si j'avais été l'entraîneur, chose que je ne ferais jamais comme tel, je l'aurais placé dans l'alignement de départ. Je me fous les cinq gars que la Caroline envoie sa glace en début de rencontre. Moi, il aurait été, moi, sa glace, drette sa glace, un des cinq en début de rencontre. Toi, aurais-tu fait ça?
Bien, je suis complètement d'accord avec toi, juste pour le fait. Je pense que les partisans ont apprécié de le faire pendant le match, de souligner son retour. Et ouais. C'est un peu plus facile à faire quand c'est sur l'alignement de départ. Tu peux prendre un peu plus de temps pour le faire comme il faut. Mais dans la stratégie, de ce que j'ai vu du début de la rencontre, en partant, il voulait voir Weber contre Ao le plus souvent possible. On a vu Schlemko et Weber y aller contre lui, y aller contre les joueurs de talent de la Caroline. Donc, Claude Julien a comme mis de côté le fait, il a juste un peu à l'image de Weber. C'est un gars comme ça aussi, où il veut pas être sous les lumières, et il veut plus faire son rôle, travailler, faire ce qu'il a à faire sur la glace.
Ouais.
Puis c'était la mission.
OK. Qu'est-ce que tu penses de Schlemko à gauche de Weber?
C'est une solution temporaire. Je vois pas le long terme avec Schlemko. On a vu ce qu'il peut offrir, à moins que vraiment, il y a eu plusieurs blessures là, depuis qu'il est arrivé à Montréal. Vraiment, il est encore en train de se battre avec ça et de revenir à 100%, mais Schlemko, pour moi, je le vois sur une troisième paire, puis là, il pourrait être bien. C'est un défenseur qui est capable quand même de bouger la rondelle. Mais tu veux amener un peu plus de vitesse. Moi, je verrais plus de vitesse ou un joueur qui est capable de bien bouger la rondelle, qui est capable de sauter dans le jeu quand c'est le temps. Parce que Weber est un joueur qui va faire une bonne première passe. C'est un gars qui va gagner ses batailles le long des rampes et sortir la rondelle du coin de la patinoire. Ça donne la lumière verte au défenseur qui, lui, protégeait le devant du filet pour sauter dans le jeu et soutenir l'attaque. Mmh. Ça donne un défenseur comme ça avec Weber qui va être capable d'être sur la deuxième vague, qui va suivre le jeu, qui va être capable de sauter dans le jeu pour faire amener un côté offensif. Fait que si je vois plus un Mété qu'on connaissait l'année dernière, là, je pense que présentement, c'est une période creuse pour lui. Le Riley qui est en début de saison, bon, mais c'est lequel de ces deux-là qu'on va revoir en premier? Est-ce que c'est le Mété de l'année dernière ou Riley du début de saison? Mais le premier de ces deux-là qui revient avec confiance, qui veut s'établir comme un défenseur qui va soutenir l'attaque, c'est lui que je vais voir à côté de Weber.
Bruno, je suis entièrement en accord avec toi. Il est évident qu'un jeune comme Victor Mété, de jouer 25 minutes, 26 minutes avec Weber, on oublie ça, mais il pourrait jouer quand même 17-18 minutes avec Weber, puis on pourrait placer un autre joueur aux côtés de Weber dans les circonstances, là, quand il le faut. Je veux dire, il n'est pas obligé de systématiquement jouer tout le match avec Weber. On est d'accord.
Complètement d'accord avec ça, et c'est là que tu choisis tes situations. Il y a eu quelques situations lors du dernier match où Weber allait embarquer avec Ben. Exemple, sur un désavantage numérique ou sur une mise en jeu en territoire défensif. Un autre joueur qui joue du hockey solide quand même défensivement depuis le début de la saison. Mm. Et c'est là que il va y avoir deux joueurs qui vont venir combler ces minutes-là. Fait que tu peux mettre un Mété si tu as une mise en jeu en territoire adverse, ouais, ou en zone neutre, où tu es dans une période du match où tu veux relancer, tu veux créer offensivement. Mm. Et là, si tu vois que l'autre équipe réussit à rembarquer son trio, son meilleur trio, ses joueurs de talent, bien là, tu peux renvoyer Weber avec un Ben qui pourrait faire le travail défensivement.
OK. On regarde les défenseurs du Canadien. Puis moi, je pense, écoute, dis-moi si je me trompe, je pense qu'on pourrait je vais utiliser le terme très bien connu au Québec, se débrouiller avec ça. C'est sûr que si on avait un premier, un deuxième joueur de défense, c'est-à-dire celui qui va jouer à gauche de Weber, un numéro 2, comme on les appelle, ben ils sont pas libres, eux autres. On n'en a pas, là. Mais ça serait idéal. Mais on n'en a pas. Bon, alors, cela dit, je pense qu'avec les gars qu'on a là, on peut s'en sortir. Même avec Osner dans la Ligue américaine, temporairement ou non, là, on pourrait s'en sortir. Es-tu d'accord avec ça? Penses-tu qu'on peut orchestrer notre défensive de façon à pas mal paraître?
Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Là-dessus, le détail, ce qui manque présentement, ce qui donne un peu de de problème à Claude Julien, c'est le fait que tu as certains joueurs qui ça va pas bien présentement. Et je ne sais pas si c'est le fait qu'il manque de stabilité, le fait qu'on change l'alignement à la défense énormément. Des fois, ça peut venir jouer dans la tête de jeunes joueurs, de joueurs qui n'ont pas beaucoup de millage. Je pense à un Riley, un Mété, même quand Joseph va revenir dans la formation, un Ouellet. Des fois, ça peut devenir pesant. Sur le court terme, ça peut être motivant, puis tu veux gagner ta place. Mais sur le long terme, des fois, tu te mets à douter de ce que tu peux faire toi-même, de la confiance va diminuer. Ça devient difficile. Mmh. Et quand un joueur comme Riley ou Mété présentement joue sous leur talent, c'est pas le Riley de début de saison, comme je disais plus tôt, ou de Mété de l'année dernière, c'est là que ça devient difficile. S'il y en a un de ces deux-là qui retrouve son ardeur, qui son aplomb, qui revient dans l'alignement, et qu'il joue le hockey qu'il est capable de jouer, qu'on a vu par moment, ben là, tu deviens solide. Et là, ça devient un plaisir pour les entraîneurs du Canadien de jouer avec l'effort. Qui va jouer avec Weber? Comment on va envoyer ça? Comment on va utiliser Weber? Qui va être à sa gauche selon les situations? Et là, si tu veux vraiment coacher et utiliser de différentes stratégies.
Explique donc aux gens comment c'est pas évident pour certains joueurs, défenseurs, d'être, exemple, droitier, puis à un moment donné, on te fait jouer à gauche. Puis, tu sais, moi, il y en a eu des exceptions. Le grand Serge n'a pas joué de son côté, Serge Savard, nécessairement. Il y en a qui peuvent jouer des deux bords. Mais moi, lorsque je regarde Mike Riley jouer à droite, ça marche pas.
Il y a beaucoup de situations que tu retrouves fréquemment dans le jeu d'un défenseur qui deviennent complètement différentes. Juste quand tu veux faire un regroupement, quand tu reçois la rondelle, exemple, ton partenaire reçoit la rondelle, il va te faire une passe soit dans le haut de ton territoire ou en zone neutre pour relancer la passe. Mais de la recevoir de ton côté où ton bâton va être vers ton gardien et d'être capable de rapidement prendre une décision ou de bouger tes pieds pour tenter d'aller chercher la ligne rouge ou de faire une passe en mouvement, mais ton bâton est vers le centre. Donc, pour l'attaquant défensif qui s'en vient mettre de la pression, ton bâton est beaucoup plus près de lui et c'est beaucoup plus facile pour lui de couper ta ligne de passe, la première ligne de passe vers l'ailier qui est en avant de toi. Donc, des fois, tu vas te forcer à te retrouver du revers et certains joueurs sont pas à l'aise du revers. Même chose dans ton territoire. Souvent, tu vas récupérer des rondelles, mais tu vas être sur ton revers. Si tu veux faire une bonne passe solide de ton côté fort, tu ramènes la rondelle vers le centre de la patinoire. Et c'est là que ça est dangereux pour un joueur adverse de réussir à couper cette passe-là, de mettre le bâton sur la rondelle. Alors, à ce moment-là, le défenseur va garder la rondelle sur son revers. Et aussitôt que tu as la rondelle sur son revers, pour 90 % des défenseurs, ta vision diminue. Et là, c'est là que tu vas y aller avec le jeu simple et tu sens que tu n'es pas capable de relancer la tête comme tu voudrais.
Laval est dernier dans la section Nord. Écoute, tu suis les activités du Rocket, toi. Qu'est-ce qui se passe?
Je dirais pas triste, c'est pas le bon mot, mais présentement, c'est frustrant pour les joueurs et on le ressent parce que l'effort est là. Ils vont tout tenter, tout ce qui est en leurs moyens, ils sont dans toutes les rencontres, ils font ce qu'ils ont à faire défensivement, sont très intenses, très agressifs, mais il manque la touche, il manque la façon d'aller gagner un match où des fois tu le mérites un peu moins, mais t'as un grand joueur de talent qui est capable d'aller te chercher un ou deux buts en avantage numérique ou à des moments importants qui va faire que tu vas capable de te sauver avec des points ou de juste dans certaines rencontres où quand c'est serré et tu prends un avantage numérique et d'aller chercher le but, tu fais mal à l'autre équipe ou tu prends le contrôle de la rencontre et ça n'a pas été le cas du tout cette année pour le Rocket. Offensivement, c'est là que c'est difficile. Fait que le Rocket, ils sont obligés de se battre nez à nez intense, et là, un petit but, un but en désavantage numérique, et là, tout s'écroule, et là, ils viennent perdre les points. À Charlotte, ils ont joué, surtout le deuxième match, un bon match, sont intenses, sont dans la rencontre, mais là, tu voyais que juste le talent de l'autre côté, c'est un plus grand talent, bon, ils vont chercher les buts qui font mal, ils vont faire le tic-tac-toe au bon moment qui fait mal paraître Lindgren ou McNiven, celui qui est dans les filets pour le Rocket. Et là, ils vont chercher, ils se sauvent avec les deux points. Donc, c'est ce qui a été frustrant depuis le début de la saison pour le Rocket.
Je te laisse en disant ceci. Ça veut dire que les deux équipes, autant dans la Ligue américaine que dans la Ligue nationale, sont deux équipes qui, ils mettent l'effort, la combativité, l'intensité. Des gars qui travaillent, la pédale au plancher, comme je le disais en début d'émission, l'engagement de tous. Alors, ça se ressemble, les deux équipes se ressemblent à ce niveau-là. Commentaire en 20 secondes, Bruno, c'est ça, hein?
Oui, ça, c'est l'ADN de l'organisation et c'est une bonne chose parce que ça, c'est une chose que les entraîneurs contrôlent et on voit la réponse des joueurs. Et là, je ne sais pas, ce soir, ça peut peut-être changer. Le premier but du Rocket a été marqué par Carl Osner, un boulet de canon qui a battu Gustafsson par-dessus la mitaine. Donc, il y a peut-être un vent de changement, là.
Carl Osner, un boulet, il marque ce soir à son premier match dans la Ligue américaine.
Oui, son premier. Il avait marqué là, son dernier match dans la Ligue américaine en 2010, en finale de la Coupe Calder.
Le Canadien, là, au total, les défenseurs ont 6 buts cette année, Bruno. Hey, il faut se reparler bientôt. Lâche pas.
On remet ça bientôt.
Merci, bye.